Alléluia. Je vais faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Prêcher brièvement. Oh, isn't God wonderful? Nous avons commencé un enseignement hier sur le fait d'acquérir une réputation divine sur le chemin de l'accomplissement de notre destinée prophétique. Tout ce que cela veut dire, tout simplement, c'est que Dieu vous parle dans sa parole écrite. Il vous parle par révélation. Il vous donne des paroles prophétiques sur là où il vous amène en tant qu'individu. Et il y a un cheminement pour y arriver, n'est-ce pas? Et sur le chemin, il y a des choses que Dieu veut accomplir en nous, qui vont nous permettre justement d'arriver à cette destinée prophétique. Et en accomplissant ces chemins, nous commençons à développer une réputation sainte. Ce qui, joliment dit en anglais, c'est « a holy reputation ». Hallelujah. A holy reputation. You should have a holy reputation. Et comme je vous disais hier, il y a un moment où ce que Dieu fait en vous commence à se voir. On commence à voir qu'il y a quelque chose qui sort de vous, qui se dégage de vous, qui a l'empreinte de l'Éternel et qui a la saveur de l'Esprit. Hallelujah. Et nous avons vu le cas, par exemple, de Barnabas et nous avons retenu le fait que cet homme à qui l'on avait confié de grandes responsabilités, qui pourtant n'était pas un grand apôtre, nous voulons tous être des grands apôtres, mais nous n'avons pas besoin d'être les grands apôtres, nous avons besoin d'être ce que nous sommes censés être. Hallelujah. Et en étant ce que nous sommes censés être, nous accomplissons pleinement notre destinée prophétique. Glory to God. Et cet homme Barnabas, que la parole de Dieu décrit, il a une sainte réputation parce qu'il est décrit comme un homme
rempli de foi, rempli d'esprit saint et un homme de bien.
Un homme de bien. Un homme de bien. Et comme j'ai dit hier, oh Seigneur, il nous faut des hommes de bien à l'église.
Amen.
Glory to God. Quelqu'un de bien. Savez, la parole de Dieu ne ment pas. Si vous êtes voleur, elle dira que vous êtes voleur. Si vous êtes menteur, elle dira que vous êtes menteur. Il y a des cas de menteurs. Et on sait, c'est un menteur. Vous êtes tricheur comme Jacob. Elle dira que vous êtes tricheur. Barnabas, un homme de bien. Un homme rempli d'esprit. Un homme rempli de foi. Un homme généreux. Un homme qui avait de la compassion. Un homme aussi qui savait entendre le Saint-Esprit et savoir quand il fallait agir pour servir de facilitateur pour que quelqu'un d'autre entre dans sa destinée. Et la destinée de Barnabas, à part le fait qu'il était prédicateur, évangéliste, impliquait aussi le fait d'aider d'autres à entrer dans leur destinée. Il a aidé Jean-Marc, n'est-ce pas? Et la vie de Jean-Marc a été transformée. Il a aidé Paul. Et tout ce que Paul a fait par la suite, Barnabas a sa part d'héritage. Parce que c'est grâce à lui que Paul a été accepté par l'église de Jérusalem. C'est grâce à lui que Paul a pu atterrir à l'église d'Antioche, qui est devenue son église locale à travers laquelle il a été envoyé dans le monde entier. Dieu a une destinée prophétique pour vous. Et c'est important de la saisir, non pas regarder la vie de quelqu'un d'autre, vous comparer à la sœur qui chante. Pourquoi je ne chante pas? Parce que tu es censé ramasser les feuilles à la fin du culte. Et que cela n'est absolument pas moins important que le fait de chanter. Glory to God. Que si tu ramasses bien les feuilles à la fin du culte, peut-être qu'un jour tu vas ramasser une feuille et tu vas parler à quelqu'un et cette personne à qui tu vas parler va être sauvée du suicide grâce à toi. Et que cette personne un jour va gagner des nations entières pour le Seigneur et tu auras ta part d'héritage.
Amen.
L'accomplissement de notre destinée prophétique demande que nous connaissions ce que Dieu veut faire avec nos vies. C'est que maintenant nous nous mettions en accord avec lui, en phase avec lui. Le laisser nous travailler jusqu'à ce que nous acquérions une sainte réputation. Que les gens puissent dire en toute honnêteté, sans flatterie, vraiment c'est quelqu'un de bien. Rempli de l'esprit, rempli de foi, généreux, beaucoup de compassion. Non pas seulement, wow, quel don extraordinaire. Non, mais quel cœur extraordinaire. Je vais vous demander de regarder avec moi dans Actes 18. Je vais vous prendre deux exemples aujourd'hui, peut-être trois ou quatre si j'ai le temps. Mais je veux que nous puissions apprendre à partir de la vie de ces personnes que Dieu a utilisées, mais qui n'étaient pas les plus connues, n'est-ce pas? Je fais exprès de ne pas évoquer Paul ou de ne pas évoquer Pierre, ni même Jacques, le frère du Seigneur. Jacques, le frère du Seigneur, c'est l'exemple type du fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Il fait partie de sa famille. Et sa famille ne l'avait pas reconnu de son vivant. Ils sont venus une fois le chercher parce qu'ils pensaient qu'il était fou. Après la résurrection du Seigneur, Jacques a une vision du Seigneur. Sa vie a été radicalement changée. Et il est devenu le responsable de l'église de Jérusalem. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il a même été tué pour sa foi. Mais vous voyez à quel point Dieu est capable de changer des vies. Alors votre oncle, Dieu va changer sa vie. Et il s'agit ici d'un homme appelé Apollos. Et il ne fait pas partie de ceux que l'on cite souvent, n'est-ce pas? Mais Apollos est un homme que Dieu a utilisé puissamment. Mais au départ, il ne savait pas grand-chose sur Jésus. Il savait certaines choses. Et ce qu'il savait, oula. Il nous a dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, verset 24. Originaire d'Alexandrie, homme éloquent. Dites éloquent.
Éloquent.
Waouh. Éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, alléluia, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. C'est ce petit passage, fait partie de ces passages que nous lisons très vite, parce qu'il ne s'agit pas de Paul. Il ne s'agit pas de Pierre, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de guérison. Donc, on passe dessus. Mais ce passage est rempli de trésors. De trésors pour nous, pour nos vies. Pour savoir réellement comment nous devons vivre, être, pour accomplir notre destinée prophétique. Et cet homme Apollos est arrivé, il venait d'Alexandrie. Alexandrie était une des grandes cités du monde antique. Alexandrie, en Égypte, était fondée par Alexandre le Grand. Il y avait de grandes écoles à Alexandrie. Et par ailleurs, plus tard, au 3e siècle, au 2e siècle, il y a eu des écoles fondées en Alexandrie. Un des plus grands théologiens de l'église origine était originaire d'Alexandrie. Il était responsable d'une école là-bas. Et il y a eu beaucoup de la théologie chrétienne sortie d'Alexandrie. Mais avant cela, donc ils avaient une tradition déjà philosophique grecque de grande connaissance. Et cet homme est juif, mais il a un nom grec. C'est intéressant, Apollos. Donc, il devait avoir une culture métissée, plus ou moins. Et c'était un homme très éloquent. Et son éloquence, ça, c'est le don naturel, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de plus que nous devons acquérir à part le don naturel. Il a acquis la connaissance des Écritures. La connaissance de la parole de Dieu. Parfois, vous entendez les gens prêcher, vous avez envie de leur dire, assieds-toi, va d'abord étudier la parole. Parce que oui, il y a le charisme, il y a tout cela, mais la substance. Ce n'est pas à coup de, ouf, alléluia, oh, vous m'avez entendu, dites alléluia. Et vous ponctuez toute, chaque fin de phrase avec alléluia, yes, 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 sans substance. Mais ce n'était pas le cas d'Apollos. Le cri de mon cœur dans cette église, c'est que chacun de nous soit versé dans les Écritures. Que nous connaissions la parole de Dieu. Cet homme était versé dans les Écritures et manifestement, il s'agit là de l'Ancien Testament parce que le Nouveau n'avait pas encore été écrit. Alléluia. Donc, il connaissait bien l'Ancien Testament et il connaissait bien donc par l'Ancien Testament les prophéties sur le Messie. Et il comprenait aussi le ministère de Jean-Baptiste qui annonçait que le Messie était déjà venu. Donc, il savait, il annonçait, il nous dit, il y a quelque chose de très fort ici. Gardez cela à l'esprit. Surtout si vous avez le désir d'enseigner. Et même si vous n'avez pas le désir d'enseigner, vous allez toujours enseigner quelqu'un. Vous allez enseigner vos enfants. Alléluia. À propos des parents, enseignez vos enfants. Ne les amenez pas simplement à l'église pour que les moniteurs les enseignent. Enseignez-les à la maison. Parce qu'ils vous croient plus que quiconque. Ils vous croient plus que quiconque. Et donc, enseigner, il était... Donc, tout le monde enseigne. Vous amenez votre voisine au Seigneur, vous allez l'enseigner. Si vous posez une question, vous n'avez pas fait, je ne sais pas, on va demander à Pasteur Dimanche. Il a annoncé, il enseignait avec exactitude. Exactitude. Et dans les milieux charismatiques, nous avons besoin de revenir sur l'exactitude. Nous sommes un peu trop portés sur le show. On peut trop porter sur ce qui fait bouger les gens. Le but de l'enseignement, ce n'est pas de faire réagir les gens. Ce n'est pas que les gens puissent... Sentez-vous libre de le faire. Mais... oh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Non, non, non. Mais le but de l'enseignement, c'est de communiquer la vérité. Donc, il faut s'attacher à l'exactitude. Et cet homme enseignait, parlait avec exactitude. Donc, il avait une force. Il avait un don, mais il avait aussi une force. Il avait un point fort. Son don, c'était l'éloquence. Son point fort, c'était sa connaissance des Écritures, qui était le résultat de son application et de son travail. On ne connaît pas la parole par osmose. On ne connaît pas la parole parce qu'elle est sous notre chevet. On ne connaît pas la parole parce qu'on aime la parole. On connaît parce qu'on étudie, parce qu'on lit, parce qu'on médite, parce qu'on apprend par cœur, parce qu'on demande la révélation, et ainsi de suite. Mais quand on demande la révélation, on s'applique à étudier. Les charismatiques sont forts pour demander la révélation. Et ils attendent des rêves pour leur montrer le sens mystique de route. Et quand ils auraient fini de concorder, ils vont venir, pasteur, route, oui. Pasteur, route, oui, c'est fort. Route, oui, route, vous savez que il y a une révélation dans ce livre. Versé dans les Écritures. Et il y a un équilibre dans cet homme parce que il était éloquent, versé dans les Écritures et fervent d'esprit. Fervent. Fervent, et ce mot veut dire littéralement bouillonnant. Bouillonnant. Bouillonnant, enthousiasmé, passionné. Romains 12, 11 nous dit ceci, ayez du zèle. Exactement, et non de la paresse. Soyez fervent. Servez le Seigneur. Alléluia. Et donc, dans cette ferveur, dans cette connaissance de la parole, il s'est appliqué à servir le Seigneur. Et il annonçait et il refutait. Mais il y a quelque chose qui est intéressant quand même, et ça s'applique à nous aussi. C'est que c'était sa force, la connaissance de la parole, mais c'était aussi sa faiblesse. Et parfois, il y a un endroit où nous sommes forts, mais c'est aussi un endroit où nous sommes faibles. Et quand vous avez une force, analysez votre force. Analysez cette chose que vous avez qui vous caractérise, pour laquelle vous êtes connu, et voyez dans quelle mesure elle a été perfectionnée. Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous arrêtons sur le chemin, nous avons une force, et c'est bon qu'on n'y touche pas. Non, on ne peut pas nous faire une remarque, ça, non, ça je connais. Non, pas seulement je suis chantre. Ah non, vous me dites que tout à l'heure, j'ai un peu raté quelque chose et j'aurais dû partir en langue, plutôt j'avais pris l'autre chemin. Non, parce que moi, je connais, je suis chantre. Merci, merci, mais ça fait des années que je fais ça. Mais merci, pasteur, merci, c'est gentil de l'avoir signalé. C'est gentil de l'avoir signalé. Nous devons faire attention là où nous sommes forts. Parce que c'est là où nous sommes forts que nous sommes le plus enclins à chuter parce qu'il y a une faiblesse que nous ne corrigeons pas, parce que nous refusons de la voir. Et Apollos avait une force, mais c'était aussi sa faiblesse. Parce qu'il connaissait les Écritures, mais sa connaissance était quand même limitée. Parce qu'il nous a dit ici, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Vous savez que depuis la résurrection de Jésus, on est allé un peu plus loin que le baptême de Jean. Ceux qui savaient, ils le savaient, mais ils ne savaient pas assez. Et parfois, vous ne savez pas assez. Même là où vous êtes fort, très important. Et ce qu'il a, ce qu'il a, le point fort, tout ce qu'il a est très bon, éloquent, fervent d'esprit, annonçant et enseignant avec exactitude. Tout cela est très bon. Mais ce qui a été le tournant dans la vie d'Apollos, ce qui l'a vraiment propulsé dans, son, dans sa destinée, c'est dans ce verset suivant. Dans ce verset suivant, il nous a dit, il se mit à parler librement dans la synagogue. En plus, il avait beaucoup de hardiesse. Ce n'était pas, je sais des choses, mais pour l'instant, j'enseigne 3 chrétiens dans ma chambre. Je n'ai pas la révélation que je devrais parler aux gens dans la rue du Seigneur. Et même au travail, quand les gens viennent me poser la question, je n'ai pas senti qu'il faille parler de Jésus. Moi, la révélation que j'ai, c'est... Enfin, c'est comme ça que Dieu m'utilise, les chrétiens. Je prêche à la chorale. Mais ceux qui connaissent vraiment pas... Ah non. Non, non, non. En fait, ce que j'enseigne est trop profond pour les païens. Ils ne saisiront pas. Vous allez évangéliser dans la rue. Non, moi, c'est pas ça mon appel. Cet homme avait aussi de la hardiesse. Au lieu de dire, ben, j'ai peur. Je sais beaucoup de choses, mais je manque de courage. Il parlait librement dans la synagogue. Et regardez ce qui se passe. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, voilà le secret d'Apollos, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Dieu a envoyé des gens pour le fortifier là où il était faible et il était enseignable. C'était ça le secret d'Apollos. Il a accepté d'être enseigné. Il a accepté d'être enseigné. Quand on est éloquent, quand on est versé dans les Écritures. Et pourquoi je parlais du fait qu'il y avait, c'était un grand centre de connaissance et de savoir à Alexandrie? Parce qu'il est fort probable qu'Apollos ait fait des écoles. Il y a beaucoup de Juifs aussi, une colonie juive assez importante à Alexandrie. Et c'est fort possible qu'il ait fait des écoles, qu'il ait étudié longuement l'Ancien Testament. Et là, il rencontre ces deux personnages, Aquilas et Priscille, qui le prennent à part, qui lui expliquent qu'en fait, il y a plus, on va t'expliquer. Et il a écouté. Quand on ne sait rien, on n'a pas de mérite parce qu'on écoute. Mais il y a même des gens qui ne savent rien, qui n'écoutent pas. Enfin, mais quand on sait des choses, on accepte de se laisser enseigner. J'ai tellement vu de gens freiner dans leur destinée, ne pas arriver là où Dieu veut, parce qu'ils ont acquis une certaine connaissance et ils ont estimé que c'était bon. Et quel que soit ce que vous leur dites, ils ont une réponse. Ils opposent toujours une résistance. Et cet homme a accepté d'être enseigné. Vous comprenez? Ce n'est pas la personne qui franchit notre porte qui dit, c'est où Matthieu? Qui vous donne la Bible pour que vous l'ouvriez? Non. C'est la personne qui connaissait. Et parce qu'il a accepté d'être enseigné, il a pu s'intégrer parmi les chrétiens à Éphèse. Et parce qu'il a pu s'intégrer parmi les chrétiens à Éphèse, lorsque Dieu voulait l'emmener ailleurs, à Achaïe, et Corinthe était une des villes principales d'Achaïe, donc probablement il allait à Corinthe, quand il a voulu partir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont recommandé à l'église de Corinthe, aux églises d'Achaïe. Ils lui ont donné des lettres de recommandation. Vous dire, ce frère, accueillez-le. Vous allez me dire, oui, mais bon, ok, c'est bien. Mais c'est capital. C'est capital parce que sa plus grande œuvre, notée dans la parole de Dieu, a été faite à Corinthe. Et si sur le chemin, là où il fallait qu'il s'asseye, qu'il écoute, qu'il se laisse enseigner, il avait dit, ah, oh, si je connais, je fais une école biblique, pasteur. Je t'ai enseigné par un tel, d'autres tels qui en savent mieux que toi. S'il avait refusé, il n'aurait pas pu s'intégrer à l'église à Éphèse. Et s'il n'avait pas pu s'intégrer à l'église à Éphèse, il n'aurait pas eu ses lettres de recommandation. Et il a eu un grand ministère à Corinthe. Parce que quand l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, la première lettre écrite aux Corinthiens, un des thèmes majeurs, c'était des factions au sein de l'Église. Vous savez pourquoi il y avait des factions au sein de l'Église? Parce que certains disaient, moi je suis Paul, moi je suis Apollos, moi je suis Pierre. Et donc il a eu un tel impact dans cette ville qu'il avait même le même statut aux yeux de certains que l'apôtre Paul. Et je vais vous dire une chose, qu'apôtre Paul était allé à Corinthe, il y a passé presque 2 ans, pratiquement 2 ans, avant de partir, 2 ans à enseigner, à prêcher à Corinthe. Et c'est là où les gens voulaient l'attaquer. Le Seigneur lui a donné une vision pour lui dire de rester. Et il est resté à Corinthe et il a enseigné longtemps. Il est resté longtemps. Il a fait une œuvre extraordinaire. Apollos arrive après. Fait une œuvre tellement puissante qu'il y a des gens qui le voient comme l'égal de l'apôtre Paul. Et parce qu'il s'est laissé enseigner à Éphèse, il a pu entrer dans sa destinée prophétique. Et il a fait une telle œuvre là-bas que quand vous lisez, mais c'est partout dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul ne parle que de ça. De l'importance de ne pas suivre tel homme ou tel homme. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas Apollos qui a causé des factions. Ça, c'est la chair des chrétiens. Malheureusement, cette église de Corinthe, d'ailleurs, elle était assez fameuse. Et une ville terrible. Corinthe était une ville terrible. Que Dieu ait touché des gens dans cette ville, c'est le témoignage de la puissance de Dieu. Paris à côté, c'est rien. Non, rien. Paris à côté, c'est une ville sainte. Mais Corinthe était une ville de débauche. Quand on disait, dans le temps antique, on disait, disons, une amie corinthienne. L'amie corinthienne, la compagne corinthienne, c'était une prostituée. Pour vous dire à quel point ils avaient mauvaise réputation, à quel point c'était un endroit rempli de débauches. Et quand vous lisez l'épître aux Romains, où l'apôtre Paul parle des hommes qui se sont livrés à la débauche, etc., etc., il a écrit à partir de Corinthe. Donc, il devait avoir sous les yeux tout son comportement infâme. Dieu a fait des choses extraordinaires dans cette ville. L'apôtre Paul y est allé. Dieu l'a utilisé. Apollos y est allé. Celui qui ne connaissait que le baptême de Jean. Parce qu'il a reçu l'enseignement. Il a accepté l'enseignement. Il s'est humilié. Il arrive à Corinthe. Il fait une œuvre puissante. Et l'apôtre Paul dit de lui, j'ai planté, Apollos a arrosé. Dieu a fait croître. Alléluia. Mais tout cela n'était pas uniquement dû au fait qu'il était versé, qu'il était éloquent, mais qu'il était humble, qu'il était soumis, qu'il était enseignable. Et cela lui a permis d'entrer dans sa destinée prophétique. Vous allez entrer dans votre destinée prophétique.
Amen.
Alléluia. Vous allez entrer dans votre destinée prophétique. Et plus tard, il y a aussi une autre référence à Paul, lorsque l'apôtre Paul a écrit à Tite, il lui a dit, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Voyez donc, ils étaient en bon terme. Donc, s'il y a eu des factions à Corinthe, ce n'était absolument pas parce qu'Apollos était allé... Moi, j'en connais autant que Paul. Où est le problème? Vous le suivez, lui, suivez-moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que Paul ne l'a pas tenu pour responsable de cette situation. Au contraire, ils ont continué à travailler ensemble. Et il a continué à le recommander. C'est vraiment important parce que toutes ces choses contribuent à ce que Dieu sache qu'il peut nous faire confiance et nous confier des choses importantes. Dieu ne lui aurait pas donné ce genre de ministère à Corinthe s'il avait dit, ah non, moi le baptême de Jean, je connais comme ne disent rien d'autre. Parce que ça ne suffit pas, le baptême de Jean. Certains d'entre vous ne seraient pas surpris de m'entendre parler de Timothée. Vous savez que j'aime Timothée, presque autant que j'aime Paul. Timothée est un exemple extraordinaire pour chacun de nous. Je vous encourage à lire les lettres que l'apôtre Paul a écrites à Timothée, surtout la deuxième lettre. Pour toute personne qui veut réussir sa vie, que vous soyez appelé au ministère à plein temps ou pas, tout ce qui est votre destinée prophétique, il y a des consignes qui sont tellement utiles pour nous, qui nous permettent de savoir ce qui fait plaisir à Dieu. dans un homme et une femme qui veut vivre sa vie dans la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, en écrivant à l'église de Corinthe, la première lettre, au chapitre 4, verset 17, il dit ceci concernant Timothée, introduction. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle. Et à chaque fois qu'il fait référence à Timothée, il trouve toujours le moyen de dire quelque chose de bien sur lui. Et même quand il lui écrit, il dit, Timothée, mon enfant. Et c'est rarissime d'entendre Paul parler de quelqu'un de cette manière-là. Il parle avec une grande affection de ses camarades, ses compagnons de route, des gens qui travaillent avec lui. Mais Timothée avait une place particulière dans son cœur. Et Timothée est quelqu'un qui est certainement entré dans sa destinée prophétique. Mais ça ne s'est pas fait simplement parce qu'il était doué ou parce qu'il a reçu une parole. Mon enfant bien-aimé est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Pas quelles sont ses voies à lui, mais quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Timothée va venir, c'est mon enfant, il est bien-aimé et il est fidèle. Dites fidèle.
Fidèle.
Il est fidèle.
Fidèle.
Il est fidèle. L'Église a besoin de gens fidèles. Des gens fidèles. Fidèles et fiables. Glory to God. Fidèles et fiables. Je reprenais quelqu'un une fois qui venait en retard aux réunions de prière. J'ai dit, ça suffit? Il y a temps de grandir? J'ai dit, par exemple, un tel, une telle. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Je sais, comme je connais mon nom, qui sera là. Et à l'heure, si j'arrive et que la personne n'est pas là, tout de suite, il y a un problème. Est-ce que vous avez ce genre de constance? Ou vous n'êtes pas, il arrivera quand il arrivera. Sinon, aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Sinon, d'ici la fin de l'année, c'est sûr que, à un moment donné. Mais avoir cette fidélité, cette constance dans le service qui fait qu'on ne se pose même pas la question vous concernant. Il y a des gens, on ne sait jamais, ils sont très inventifs, créatifs. Je sens qu'il faut que je reste à la maison pour prier. Mais c'est dimanche matin, tu chantes à la loge. Oui, mais je sens. Oui, mais c'est une inspiration divine, une inspiration du sommeil. On voit comment Paul présente Timothée. Lorsqu'il parle de lui aux Philippiens, en Philippiens 2, 22, il parle de lui comme son fils. Et le mot qu'il utilise, c'est un mot qui veut dire, dans le grec, un mot qui veut dire mon fils légitime, par opposition à illégitime, et authentique. En d'autres termes, c'est un peu comme s'il disait, lui, c'est vraiment mon fils. Mon fils, le fils en vrai, en véritable fils. Non, on ne peut le qualifier autrement, c'est un vrai fils. D'autres termes, il y a des fils, mais il y a un fils. Un vrai. Lui, c'est un vrai. C'est ce que Dieu veut faire de nos vies. Pas simplement nous amener à faire de grandes choses pour le Seigneur, mais être des gens bien, des gens vrais. Des gens fiables, des gens fidèles. Et des gens, on peut dire, lui, c'est pas mon fils quand tout va bien. Lui qui pleuve, qui neige, dans toutes les circonstances, toutes les épreuves, toutes les situations, il est à mes côtés. C'est ce que Paul dit concernant Timothée. C'est ce qu'il dit en réalité. Lui, c'est un fils. Il ne faillit jamais, il ne me lâche jamais, je peux compter sur lui. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Non pas des gens caractériels, et imprévisibles, et toujours voués dans leurs émotions et leurs situations, leurs circonstances et moi. Et qui seraient enfin heureux quand Dieu va ouvrir une porte. Vous voyez, les portes que Dieu nous ouvre ne sont pas nécessairement des portes qui, pour nous, sont grandioses sur le moment, mais ce sont des portes qui nous permettent d'avancer, de grandir et de contribuer à quelque chose. Vous suivez? Glory to God. Glory to God. Ces cheminements spirituels sont souvent méconnus, alors que dans le naturel, nous comprenons les cheminements. N'est-ce pas? Nous comprenons les cheminements dans le naturel. C'est la raison pour laquelle notre jeune chanteuse ici présente, remarquez, j'ai dit jeune, notre jeune chanteuse ici présente, n'a pas ouvert une école quand elle avait 20 ans. Parce qu'il fallait qu'elle passe par un cheminement, un processus. Et je sais quand elle passait ses examens, tu vas y arriver, oui. Écoute les enseignants, oui, oui. Il y a combien d'années?
10 ans.
Il y a 10 ans? C'est pas il y a 10 ans que tu as passé tes examens? Oh, j'ai déjà dit jeune, c'est vrai toi aussi. T'inquiète, personne ne va faire les calculs. Ah, je fais exprès pour dire jeune au départ. Oh. Pense à Ananias et Saphira. On en a parlé hier, pour ceux qui n'étaient pas là hier, prenez le CD. Ananias et Saphira. Et Paul le décrit aussi comme son compagnon d'œuvre. Waouh! Ça, ce n'est pas les titres honorifiques. Parfois, on donne des titres honorifiques aux gens qui ne le méritent pas. Et, ah oui, oui, bah, là, c'est un grand évangéliste. C'est ça. Il a gagné comme mesdames l'année dernière. Oh, il a fait quelques séminaires. Mais qui a été gagné au Seigneur? Non, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Oh, oh. Compagnon d'œuvre. Compagnon d'œuvre. Timothée, c'est mon compagnon d'œuvre. Timothée était enseignant aussi à Corinthe. Et on aurait dit Timothée était l'homme à tout faire de Paul. Il n'était pas son fils parce qu'il était intronisé. Parce que Paul était assis avec son grand machin et le truc sur la tête. Et sa grosse croix. Et Timothée aussi avait une grosse croix, mais un peu plus petite que celle de Paul. Parce que quand même, il faut le respect. Sa grosse croix à côté, les deux. En contemplant l'assemblée méchamment. Pour asseoir leur autorité divine. Non, parce que Timothée était prêt à tout. Tout ce qu'on lui demandait, il faisait. Et c'est ce faisant qu'il est arrivé à sa destinée prophétique. Paul avait besoin de quelqu'un pour envoyer à Colosse, il a envoyé Timothée. Il l'a envoyé en Macédoine. Après, il l'a envoyé en Thessalonique. Après, il est parti à Athènes, il l'a laissé à Béry, il a envoyé des instructions, il dit, rejoins-moi tout de suite. Et il est venu. Comment ça? Ben, moi, si j'ai ma vie, attends. Viens ici, va là-bas, viens ici, va là-bas. Ah, c'est ça, servir le Seigneur? Bon, maintenant, tu restes à Béry, je vais à Athènes. Maintenant, quitte Béry, viens à Athènes. Et je dis, décide-toi, ou je reste à Béry, ou je quitte Béry, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Dites à Timothée de venir à Athènes maintenant, de quitter Béry. Ok, Timothée, quitte Béry, va à Athènes. Après, on dit, bon, Timothée, tu vas aller en Macédoine. Ok, ils vont en Macédoine. Bon, moi, Timothée, tu vas aller à Thessalonique. Oui, mais ils ont voulu te tuer à Thessalonique. Oui, mais toi, tu vas y aller. Non! Non. Tu vas aller à Thessalonique. Ok, je vais à Thessalonique. Tu vas revenir de Thessalonique. Ok, je reviens de Thessalonique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te dis, oh, tu vas repartir. Ok, je repars. Et après, il écrit aux Philippiens, il dit, bon, je vais vous envoyer Timothée. C'est pas juste, bon, je vais voir, peut-être que Timothée. Non, je vais vous envoyer Timothée. Et il a envoyé Timothée. Extraordinaire. Et Timothée a souffert. Hein? Parce que si Paul dit que quelqu'un a souffert, c'est qu'il a souffert. Dans Philippiens 2:22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Ah, vous savez ce que c'est être mis à l'épreuve? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est être mis à l'épreuve. Je suis ton fils jusqu'à ce que tu sois mis à l'épreuve. Et parce que moi, je vous parle d'être mis à l'épreuve. Oh, il y a peut-être du péché dans ta vie parce que ça, pasteur, il y a des épreuves. Il a été mis à l'épreuve et il s'est acquitté de sa tâche avec brio. Il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service du Seigneur. Nous avons déclaré que dans cette église, nous n'allons pas être des lâches, nous allons être des gens courageux. Nous allons être des gens capables d'affronter toutes les circonstances, toutes les persécutions, qu'elles soient, parce que Jésus le vaut bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Amen.
Jésus le vaut bien. Il a souffert au service de l'Évangile. Il a été avec moi comme un enfant avec son père. Wow! Et je vais simplement vous dire comment Timothée en est arrivé là. Parce que là, on le voit faire des choses aux côtés de Paul, avec la confiance de Paul. Paul, il n'était pas dupe. Si vous êtes faux, il vous dira, vous êtes faux. Il a même dit à Pierre, Pierre, tu abuses. Vous imaginez? Donc, quand il dit de telles choses de Timothée, c'est que Timothée, wow! Que vous êtes un Timothée. Ou en Jean-Marc de la première heure. On sait que Jean-Marc a changé, mais la première heure, lui, il aurait vécu ça, il serait parti, comme il avait fait à Pamphylie. Et Dieu a béni Paul, il a trouvé Timothée, et Timothée ne l'a jamais quitté. Timothée fidèle, Timothée sérieux, mais pour en arriver là, qu'est-ce qu'il fallait? Je dis souvent qu'il y a quelque chose qui va vous qualifier pour le service, qui va vous qualifier pour entrer dans votre destinée prophétique et qui n'est pas nécessaire pour votre salut. Vous comprenez? Vous êtes sauvé. La foi en Jésus, vous êtes sauvé. Mais il y a d'autres choses qui vous seront demandées, qui vont vous qualifier pour entrer dans votre destinée prophétique. Mais ces choses ne vont pas vous empêcher d'aller en enfer si vous refusez de les faire. D'aller au ciel, pardon. Et souvent, en tant que chrétien, nous arrêtons à ce qui va nous amener au ciel. Tant que ce n'est pas exigé dans la parole de Dieu pour aller au ciel, qu'on ne nous demande pas. Où c'est marqué dans la Bible qu'il faut faire ça? Où c'est marqué dans la Bible qu'il faut prier à 5 heures du matin? Montre-moi. Si tu peux me le prouver, pasteur, je prierai à 5 heures du matin. Où c'est marqué dans la Bible qu'il faut faire 7 jours de jeûne tous les 3 mois? Si tu peux me le prouver, je le ferai. Si je ne vois pas ça écrit, où c'est marqué dans la Bible que tu dois manger un steak? Dis-moi où c'est marqué dans la Bible que tu dois porter un sac Gucci. Si ce n'est pas marqué, tu n'as pas le droit. Quand nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, nous trouvons toujours l'occasion de dire, où c'est marqué dans la parole? Moi, c'est la parole. Si ce n'est pas la parole, je ne fais pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Où c'est marqué dans la parole que tu dois te mettre des faux cheveux sur la tête? Hein? Allez, sœurs. Ne regardez personne. Ne regardez personne. Non. Paul a demandé à Timothée de faire quelque chose. Quelque chose de très, très fort. Oh, Jesus. Chapitre 16. Il nous dit ceci. Ça, c'est au tout début quand il l'a rencontré. Acte 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Vous voyez ce que c'est d'avoir une sainte réputation? Une sainte réputation, c'est la première chose qui commence à vous qualifier. Quand on cherche quelqu'un, quand vous êtes indiscipliné, acariâtre, méchant, on ne risque pas de vous proposer. Mais ce n'est pas vous. Je crois des choses meilleures concernant les gens de Abba House. Amen. Et si vous vous sentez visé, il y a peut-être besoin de repentance. Hein, Bobo? Donc, rendez de lui un bon témoignage. Ma prière vraiment ce que les gens puissent rendre de nous un bon témoignage. Alléluia. Les gens rendront de toi un bon témoignage. Parce que quand quelque chose se fait en nous, ça finit par se voir. Enfin, c'est long, mais ça se voit. Glory to God. Paul voulut l'emmener avec lui. Paul a vu Timothée, il a vu la main de Dieu sur lui, il a aussi reçu un bon témoignage le concernant, et il a voulu l'emmener avec lui. Le même Paul qui avait rejeté Jean-Marc, il voit celui-ci, je vais le prendre. Et nous, on aurait fait, yes! La prophétie s'accomplit. Yes! J'ai toujours su, j'étais destiné à de grandes choses. Aux côtés de Paul, nous allons changer le monde. Et on imprime les cartes de visite. Assistant Paulin. On distribue à nos amis. La prochaine fois que tu entendras parler de moi, ce serait Paul et moi. Ou plutôt, moi et Paul. Paul va m'accompagner. I have moved to another level. Oh yeah, sister, he's positioned me. Et l'ayant pris, il le circoncit. Il n'avait pas besoin de ça pour être sauvé. Il n'avait même pas besoin de ça pour prêcher l'évangile. Sauf parce qu'il accompagnait Paul. Et l'ayant pris le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il y a des choses que vous allez devoir faire pour accomplir votre destinée, qui ne sont pas nécessaires pour votre salut et qui vont vous coûter quelque chose. Vous savez, il y a des gens qu'on appelait les gens qui craignaient Dieu, qui étaient des gentils, qui aimaient le Dieu d'Israël, mais qui ne devenaient pas nécessairement juifs. Et certains d'entre eux, l'histoire nous dit, parce qu'ils ne voulaient pas passer par la circoncision. Parce que c'était des adultes. C'est un peu pénible comme processus. Et ce garçon a accepté, on n'imagine même pas ce que ça a été pour lui. Il a accepté, pas parce qu'il en avait besoin pour prêcher l'évangile, mais parce qu'il en avait besoin pour pouvoir être accepté et pouvoir suivre Paul. Parce que Paul allait vers les Juifs et il allait vers les païens. Mais il tenait à annoncer aux Juifs que le Messie était venu. Et nous avons beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui le contexte actuel, mais il n'aurait jamais écouté un païen. Jamais. Il n'aurait jamais écouté un gentil, il n'aurait jamais écouté quelqu'un qui n'était pas circoncis. Est-ce que vous me suivez? C'était à ce point les préjugés à l'époque. Et Paul, voulant absolument pouvoir les toucher et voulant emmener Timothée avec lui, a exigé qu'il soit circoncis et il a accepté. Vous savez, chacun de nous passe par une circoncision quand nous voulons vraiment entrer dans ce que Dieu a pour nous. Quelque chose auquel nous allons devoir renoncer. Quelque chose qu'il faut changer. Quelque chose qu'il faut casser. Quelque chose qu'il faut briser. Et nous avons le choix de dire, ah non, moi, non, Dieu ne me demande pas ça. Ce n'est pas marqué dans la parole que je dois faire ça. Ou on peut accepter pour dire, ok, parce qu'avec ça, je pourrais passer à l'étape supérieure. Parce que je tiens à faire la volonté de Dieu. Je tiens à servir Dieu. Je tiens à suivre le chemin qu'il a tracé pour moi. Ce n'est pas le chemin qu'il a tracé pour quelqu'un d'autre. On peut très bien dire que oui, mais en tel, il agit dans tel. Mais moi, je vais aller à Antioche, parce qu'à Antioche, il y a beaucoup de gentils et personne ne te demande une chose pareille. Et il serait sorti de la volonté de Dieu pour sa vie, parce que sa destinée était aux côtés de Paul. Ce n'était pas à Antioche. Et vous savez par ailleurs que Paul faisait partie des gens qui ont lutté pour que l'on n'exige rien des païens qui se tournaient à Christ, qu'on ne leur exige pas la circoncision, qu'on ne leur exige pas de suivre le sabbat, qu'on ne leur exige pas de suivre les traditions juives. Mais en même temps, dans ce genre de situation, sachant comment lui annonçait l'évangile, il fallait qu'il ait quelqu'un qui serait accepté. Non pas parce qu'il pensait que c'était nécessaire pour lui pour être chrétien, mais parce que c'était nécessaire pour lui pour pouvoir avoir l'accès aux endroits où il devait aller. Ce qui est extraordinaire, c'est que Timothée est accepté. Donc, vous commencez à comprendre le cheminement par lequel ce garçon est passé et qui lui a permis d'entrer dans sa destinée prophétique et d'arriver au point où Paul a une telle affection pour lui. On ne devient pas comme ça enfant légitime simplement parce que, ah, salut, ça va? Glory to God! Ça nous coûte quelque chose. Il y a une abnégation, il y a un don de soi, il y a un sacrifice, il y a le fait de suivre. Suivre. Et ce qui était magnifique au sujet de Timothée, c'est que Timothée était un garçon comme Apollos qui était enseignable. Parce qu'il n'était pas quand même un enfant. Voici, il était là, il était jeune. Mais on dit un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et il renaît de lui un bon témoignage, ce qui veut dire qu'il avait fait ses preuves. Et beaucoup d'entre nous, on aurait raté cette occasion là tout de suite parce qu'on me demande quoi? Ah non, non. Je retire ma candidature. Non, parce que finalement, j'ai eu un rêve. Je pense que le Seigneur me conduit ailleurs. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire, mais ce n'est pas nécessaire tout ça. Qu'est-ce qu'on te demande de faire, franchement? Où c'est indiqué dans la parole qu'il faut faire ça? C'est très important pour nous d'être sensibles. C'est très important pour nous aussi de savoir que là où Dieu nous emmène, on n'y arrive pas parce qu'on passe notre temps à dormir, à chercher ce qui nous arrange. Parce que Dieu a besoin de soldats. Il n'a pas besoin de gens qui partent en croisière. Il a besoin de soldats. Et un soldat, c'est quelqu'un qui a résolu un certain nombre de choses à l'intérieur de lui. Je vais faire la volonté de Dieu, quel que soit ce que ça me coûte, quel que soit ce que ça me demande. Dieu a besoin de soldats, de soldats. Par ailleurs, dans ses lettres à Timothée, l'apôtre Paul n'arrêtait pas de lui parler du fait qu'il était un soldat. Et qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. N'est-ce pas? Un soldat a un objectif. Et il ordonne sa vie de telle sorte à arriver à cet objectif. Nous sommes des soldats, nous ne sommes pas des civils. Lorsque j'étais... Parce que j'ai fait mon service national, je l'ai fait dans une base de l'armée de l'air. Et c'était mon premier contact vraiment avec les militaires. C'était incroyable la mentalité qu'ils avaient d'être l'élite, une classe à part. Surtout l'armée de l'air. On côtoyait beaucoup les pilotes, mais alors ils s'y croyaient. Hein? Et nous, les civils, c'était... Oh, ils parlaient de quelqu'un qui avait... c'est un civil. Mais eux, les soldats... Alors, eux, c'était quelque chose. Sans la même attitude, sans l'orgueil, nous devrions avoir la compréhension et le sentiment d'être une classe à part. Et non pas constamment vouloir être comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Une classe à part, née de Dieu. Vous avez une destinée prophétique. Pour y arriver, Dieu va vous demander de vivre d'une certaine manière, d'apporter certaines choses dans votre vie, d'apporter quelques modifications dans votre façon d'exister. Et c'est ce faisant que vous commencez à acquérir une sainte réputation et c'est ce faisant que vous arrivez là où vous devez arriver. Vous comprenez que Paul, il a vu quelque chose dans ce garçon. Il a écrit deux lettres à Timothée. Une lettre à Tite, une lettre à Philémon, deux lettres à Timothée. Et quelle lettre? Timothée s'est laissé qualifier pour le service, il était obéissant. Dans ses lettres, Paul lui donne des instructions détaillées sur la manière d'organiser l'Église. Nous, on dirait, de quoi je me mêle? Paul, il fait son affaire, moi, si je suis appelé, non? Parce qu'il a laissé à Éphèse, et la tradition nous dit que Timothée était devenu le pasteur de l'Église d'Éphèse. Et une très grande Église, un endroit où Paul a labouré pendant longtemps. Maintenant, on cherche quelqu'un de confiance qu'on peut mettre en place, il met son fils. Et il a fait du bon travail à Éphèse, parce qu'il a eu de bonnes instructions. Et sachant aussi que Timothée était obéissant et qu'il allait appliquer ses instructions. Et vous avez vu plus tard, quand on a lu la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse, cette église était appuyée sur la parole. Appuyée sur la parole. Appuyer sur la parole. Et quand, dans la lettre que Paul a écrite à Timothée, il lui a dit de confier les choses qu'il avait apprises à des personnes qui étaient capables d'enseigner. Et il a dû obéir. L'obéissance nous positionne. L'obéissance nous positionne. Et tout cela, et donc accepter d'être enseigné, accepter d'être guidé, accepter d'être conduit. On n'est pas grand parce qu'on s'oppose aux grands. On est grand parce qu'on écoute les grands. Et c'est comme ça qu'on devient grand. Et souvent, lorsque les gens veulent constamment être en opposition, vous finissez par les laisser. Vis ta vie. Fais comme ce que tu veux. Fais comme tu veux. Nous n'avons pas besoin qu'on nous dise « fais comme tu veux ». On a besoin qu'on nous dise « non, fais pas ça. Fais pas ça. Fais ça, fais ça, fais ça. » Et comme Apollos a été enseignable, Timothée a été enseignable. Il a été fidèle. Et tout cela l'a propulsé dans sa destinée. Et ce qui est merveilleux, en plus, c'est que quand vous lisez certaines des lettres envoyées par l'apôtre Paul, il inclut Timothée. Qu'est-ce que je veux dire par il inclut Timothée? Il écrit à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 1:1. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. En d'autres termes, c'est Timothée et moi qui vous écrivons. La personne qui a commencé comme un simple disciple avec un bon témoignage. En servant, en étant l'homme à tout faire, en étant le fils fidèle, en disant ceci, il est maintenant cité avec l'apôtre Paul, avec lui pendant qu'il envoie sa lettre. Ce qui voulait dire qu'il était avec lui. Paul et Timothée, aux Philippiens, Philippiens 1:1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Il écrit à l'église de Colosse, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Paul et Timothée. Il écrit à Thessalonique, il dit, Paul et Sylvain et Timothée. À l'église des Thessaloniciens. Quel honneur! Quel honneur! Pour celui qui est l'homme à tout faire. Quel honneur! Il écrit à Philémon, il fait peur. Paul, il était en prison. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. À Philémon. Même en prison, Timothée était là. Glory to God. Et quand il va quitter, il va partir, il écrit à son fils Timothée. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous allez remplir bien votre ministère. Amen. Vous allez remplir bien votre ministère. Et il y a tellement de personnes qui ont une sainte réputation dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je vous encourage à lire et essayer de découvrir des personnages. Qu'est-ce que la parole dit d'eux? Et posez-vous la question, si c'était vous, qu'est-ce que la parole dirait sur vous? Est-ce qu'on dira bien-aimé et fidèle? Glory to God. Il y a d'autres personnages. On a parlé pendant la prière de Tryphène et de Tryphose à Rome. Qui est Tryphène et Tryphose? Oh, Tryphène, non. Tryphose, non. Tryphène et Tryphose à Rome qui ont bien travaillé pour le Seigneur. Tellement de personnes. Des gens qui sont connus pour leur générosité, leur bonté. Lydie, Onésiphore. Onésiphore. Vous connaissez tous Onésiphore.
Amen.
Dorcas, vous connaissez. Nous connaissons Onésiphore. Parce que dans 2 Timothée 1, 16, l'apôtre Paul prie pour lui. Il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il y a des gens qui ont le ministère de consolation. Il m'a souvent consolé. Il a encouragé, il a rafraîchi. Il y a d'autres qui sont encore mieux parce que c'est des traîtres, des gens difficiles, des gens insupportables, comme Alexandre le Forgeron, comme Démas, qui a abandonné Paul, comme aussi Démétrius, qui voulait toujours être le premier, qui a fait opposition à l'apôtre Jean. Il faut le faire. Glory to God. Mais ce n'est pas votre témoignage. Les églises aussi peuvent avoir une sainte témoignage, un saint témoignage, une sainte réputation. L'église de Philippiens était tellement bien aimée de Paul. Cette église était connue pour son engagement. À ma prière, c'est que nous soyons connus pour notre engagement. Son engagement dans l'œuvre de Dieu. Son engagement à soutenir l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Les Thessaloniciens étaient connus pour leur foi. Pour l'espérance qu'ils avaient, pour leur amour. Les Colossiens étaient connus pour leur foi et pour leur amour. C'est fort. Et les Galates étaient connus pour être instables, se laisser facilement détourner de l'évangile, pour épouser un autre évangile. Ce n'est pas notre témoignage. Je dis, ce n'est pas notre témoignage.
Amen.
Évidemment, je ne vais pas évoquer les églises d'Apocalypse que nous avons étudiées longuement. Vous savez aussi qu'elles étaient connues pour quelque chose. Donc c'est important, une église qui va arriver à sa destinée prophétique, elle doit être connue pour quelque chose. Elle doit avoir une sainte réputation, elle doit développer à l'intérieur d'elle des choses qui vont faire en sorte, qui vont provoquer la manifestation de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu.